Несла дівчина воду з далекої криниці, назустріч їй козаченько, дай води напиться.
Bonsoir à tous et bienvenue sur la dernière radio libre de francophonie. Aujourd'hui, Ukraine, épisode 3, nous allons nous salir les mains dans la guerre. Ce soir, voyage au bout de l'angoisse, voyage au bout du folklore de cette guerre en Ukraine. Car c'est vrai, on a un peu évité le sujet dans les épisodes précédents, mais enfin, on va pas faire comme si ça n'existait pas. L'Ukraine et la Russie sont en guerre depuis maintenant plus d'un mois. Avec tout ce que ça implique, au 21e siècle, dans une économie mondialisée, multipolaire, avec des sociétés surarmées, des populations vicieuses comme jamais, un monde où le battement d'ailes d'un Sukhoi 35 à Dnipropetrovsk déclare une tempête de gaz sur les marchés de Wall Street. Bref, Previat Tavarich, on descend ce soir vers le sud de la Crimée, dans la base navale de Sébastopol, véritable bastion de l'armée russe en mer Noire. Si vous aviez vu la face des soldats russes, franchement, ce n'est pas très joli. Ils étaient partis comme l'armée allemande en 1940 et les voilà soldats américains au Vietnam. Et c'est vrai, cette campagne en Ukraine n'est pas spécialement triomphante. On a pu voir des chars russes abandonnés par manque de carburant, des soldats piller les magasins ou dénazifier des poulaillers, tout ça parce qu'ils avaient faim. Les gars ne s'attendaient pas à ça. On leur a dit qu'ils seraient accueillis en libérateurs et quand, naïvement, ils demandent leur chemin aux civils ukrainiens, ils reçoivent des cocktails Molotov dans la figure. Pire, on a même entendu des soldats discuter sur des canaux non cryptés. Les gamins s'étaient perdus, avaient utilisé un téléphone trouvé quelque part. Ils se lamentaient, s'insultaient et pleuraient. Eh bien, elle est belle, votre armée russe. Car dès les premiers jours de l'invasion, on a vu le gouvernement ukrainien appeler son peuple à prendre les armes, à fabriquer des cocktails Molotov. Le 3 mars 2020, Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, signe une loi d'amnistie pour les crimes commis envers les soldats russes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Ukraine ne se laisse pas faire. Ce qui me permet de rappeler quand même que la guerre, c'est un crime. Le crime parmi les crimes, le plus odieux puisqu'il suffit de prononcer son nom pour nous changer définitivement. Comme un rituel macabre, quand la hache de guerre est déterrée, tout est possible. Bref, la guerre, c'est un crime. Elle légalise ce qu'il y a de plus illégal, de plus amoral, de plus animal aussi. Elle normalise la normale. Un homme qui en tue un autre choquerait n'importe qui en temps de paix, mais si c'est la guerre, alors ça va. La guerre, c'est donc le crime qui légitime le crime. Et c'est pour ça qu'il existe tout un art de la guerre. Fait de stratégie, de diplomatie, de traités, de conventions, des règles, si j'ose dire, pour encadrer ce crime. On pense par exemple aux conventions de La Haye ou de Genève, ou bien encore une certaine morale de guerre, des coutumes héritées du temps, comme celle de ne jamais tirer sur un drapeau blanc, de permettre des couloirs humanitaires pour évacuer les zones de conflit, de ne jamais laisser un homme à la mer, peu importe l'uniforme, enfin, et surtout, impliquer le moins possible les civils dans la guerre, toujours séparer le soldat du citoyen. Ça, c'est ce qui rend la guerre moins criminelle, pour tout le reste, faites-vous plaisir. Mais les règles, ça n'empêche pas le viol, la Convention de Genève, tout le monde est passé dessus, pour ça, aucune armée du monde ne peut prétendre aujourd'hui ne jamais avoir commis de crimes de guerre. C'est juste que la plupart du temps, les coupables ne sont pas inquiétés et les victimes ne sont jamais entendues. Pour ça, l'Ukraine, ce n'est pas une première. La Serbie, l'Irak, le Yémen ou la Syrie nous avaient déjà régalés. Mais enfin, niveau crimes de guerre, l'Ukraine, ça va bientôt devenir un cas d'école. Images de prisonniers publiées, bombardements de cibles civiles, d'hôpitaux, utilisation des populations civiles comme force militaire ou comme bouclier, cyberguerre, guerre financière, guerre migratoire, guerre énergétique, il ne manque plus que les bombes nucléaires, l'arme chimique ou les camps de concentration, et vous aurez toute la collection. Et donc, on en est là. La guerre du 21e siècle, c'est une guerre hors limite. Tout peut devenir une arme, la guerre se démilitarise, elle se fait plus civile, ce qui ne la rend pas plus humaine, au contraire, cette guerre moderne est d'autant plus meurtrière, génératrice de traumatismes et incontrôlable. Bref, c'est une mort à crédit. Mais il est temps pour nous de nous confronter justement à cette réalité de la guerre, alors quittons Sébastopol et allons rejoindre la tristement célèbre ville de Mariupol. Je vous propose de monter dans un Kamov 52 Alligator, casque sur la tête et mitrailleuse de la guerre froide entre les mains. Notre hélicoptère a décollé de la base russe de Sébastopol en Crimée, direction nord-est, retour dans le Donbass pour ce soir. En survolant la mer d'Azov, on approche de la côte ukrainienne. On passe par Berdiansk, Yalta, puis enfin Mariupol, ce qui nous permet de voir l'étendue du massacre. Mais bon sang, qu'est-ce que vous avez fait ? Il n'y a pas 3 mois, les gens fêtaient Noël dans une vieille cité post-soviétique. C'était pas la joie, mais enfin, les murs tenaient debout. Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien. Des quartiers entiers dévastés, des bâtiments sans façade, des balcons qui pendent dans le vide, des débris partout. Ce qui n'empêche pas les bombardements de continuer, comme s'il y avait encore quelque chose à détruire. Début avril, le maire de Mariupol annonçait que 80% de la ville était détruite. En 2017, la ville comptait 450 000 habitants. Il n'y a plus personne. Faites le compte. Ici, les Russes sont arrivés des deux côtés. De l'ouest par la Crimée et du nord par Donetsk. Des colonnes de chars accompagnées d'un concert de canons, d'une aviation monstrueuse, Sukhoi 25, Sukhoi 30, 34, 35, 57, les jeux sont faits, rien ne va plus. Somme toute, le trio gagnant d'Hitler, une aviation qui ouvre la voie aux blindés, lesquels sont soutenus par une artillerie surpuissante. L'armée russe, c'est d'ailleurs une armée d'artilleurs. Leur truc, c'est les canons, les pétards, le shrapnel, ce sont les champions du lancer de javelot, missiles balistiques qui courbent dans l'atmosphère, ou missiles de croisière qui frôlent le sol pour taper de manière imprévisible, des mitrailleuses qui crachent des roquettes, les fameuses Katyusha, véritable spécialité russe depuis 1941, et baptisée en l'honneur d'une chanson folk, justement. Mais ne rigolez pas, les forces de l'OTAN se défendent pas mal non plus quand il s'agit de baptiser des missiles, Hound Dog, Tomahawk, Scalp ou Apache, y a pas à dire, l'OTAN ça reste quand même des cowboys jusqu'au bout. Mais revenons à Mariupol, les bombes qu'on y largue ne sont pas guidées, ce ne sont donc pas les fameuses frappes chirurgicales de la guerre d'Irak, c'est plutôt un tapis de bombes, c'est-à-dire des bombardements aériens similaires à ceux de la Seconde Guerre mondiale. Dresde, Tokyo, Londres, ou plus récemment Saïgon, ils sont juste plus lourds, plus modernes, plus pervers. Mais les Russes ont aussi des bombes guidées, lancées par des navires en mer d'Azov ou par une artillerie placée aux abords de la ville. Le souci pour les Russes, c'est que les bombes guidées nécessitent de s'approcher de la cible, or, l'infanterie, vous l'avez vu, peine à percer les lignes ukrainiennes. Mais la vraie spécificité russe, c'est quand même la bombe thermobarique, ou bombe à vide. Et ça, la bombe thermobarique, rien qu'à son nom, vous vous imaginez bien que ce n'est pas un pétard de carnaval. La bombe thermobarique, c'est la bombe la plus puissante, juste au-dessus, vous avez l'arme nucléaire. Et cette bombe, eh bien elle est légale, certains pays la considèrent néanmoins comme une arme de destruction massive, mais enfin, elle est encore utilisable en conflit comme arme conventionnelle. Et la bombe thermobarique, elle fonctionne en 3 temps. D'abord, une première détonation libère un combustible qui se répand dans l'atmosphère, une seconde détonation enclenche ensuite la bombe qui, au contact du combustible, explose dans un déluge de feu. Enfin, la chaleur de cette explosion surpuissante crée un vide. C'est donc littéralement la matière qui s'effondre sur elle-même. Le napalm à côté, c'est de la sauce piquante. La bombe thermobarique, ça peut vous détruire un bâtiment et ce n'est pas une arme très chère. On peut même l'armer dans un bazooka ou une Katyusha. Vous ne trouverez pas arme plus méchante. C'est d'ailleurs un véritable must-have si vous souhaitez détruire un pays. Elle fut utilisée au Vietnam où elle a fait littéralement ses armes, mais aussi en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Yémen et aujourd'hui en Ukraine. Mais vous savez, les Ukrainiens ne sont pas en reste, ils sont même plutôt bien équipés. Les Britanniques ont récemment livré des missiles Starstreak, oui, ils les ont vraiment appelés Starstreak, qui sont dirigés par laser, ce qui en fait des missiles imparables et accessoirement les plus rapides du monde. Les hélicoptères russes tombent comme des mouches, mais c'est surtout au niveau des drones que cette guerre s'illustre. En 2014, la PS4 et la Xbox One sortaient au Japon, et la même année, en Turquie, était mis en service le Bayraktar TB2. Un drone conçu par Selçuk Bayraktar, le gendre de M. Erdogan, un petit cadeau du gouvernement turc. Le Bayraktar, c'est un drone qu'on appelle MALE, M-A-L-E, pour moyenne altitude mais longue endurance. Ne rigolez pas, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Et en effet, le Bayraktar peut voler pendant 27 heures et à une vitesse de 222 km/h. Il peut filmer à peu près n'importe quoi avec une précision de haute définition, et son ventre est rempli de missiles ultra précis. On peut même l'équiper d'un brouilleur de communication et d'armes laser. Cerise sur le gâteau, le Bayraktar n'est vraiment pas très cher, entre 5 et 10 millions de dollars, une bagatelle pour un massacre. Bref, soyez comme le Bayraktar, lent, pas cher, redoutable, turc. Et c'est pourquoi en face A de cet épisode, je vous passe cette chanson ukrainienne sortie pendant la guerre, en honneur de ce drone, justement. Un folklore de cette guerre, partagé, réinterprété, remixé sur les internets, un titre qui, pour sûr, s'inscrira dans l'histoire comme symbole de la résistance ukrainienne contre les artilleurs russes. Alors ce soir, pour les habitants de Mariupol, tenez bon. Un robot vient vous sauver, il fend les airs pour faire taire les canons russes, il amène un peu d'espoir dans ce ciel noir, son nom, c'est Bayraktar.
Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Bayraktar. Bayraktar. Російські танкісти сховались в кущі, шумлав там розгорнути довгані щит, та трохи в ушах перегрівся навар. Bayraktar. До нас барани, для восстановления великой страны, найкращий пастух, баранячий ботар. Bayraktar. Bayraktar.
Nous sommes désormais enveloppés d'une bulle de détonation. Claquement, sifflement, impact, impuissant devant les barbelés, un soldat regarde, hébété, sa cuisse perforée. En face de lui, un de mes hommes a deux doigts sectionnés. Deux autres gars sont vidés de leur énergie par la violence qui les entoure. Ils sont comme des mannequins inertes. Le groupe est hors de combat. Mon plan a tenu 2 minutes 30 à l'épreuve des faits. Cette citation, c'est celle du lieutenant Bruno Helloin, officier des Nations Unies, qui raconte l'enfer des combats dans la ville de Sarajevo en 1991. Car il s'est en fait passé à Mariupol ce que les officiers de toutes les armées du monde redoutent le plus, le combat en ville. La guerre est terrible dans tous les cas, mais dans les villes, elle est encore plus perverse. Les Ukrainiens ont laissé les Russes avancer dans la steppe, ils se sont repliés dans les villes en attendant d'y être délogés, ce qui fut une tactique plutôt intéressante, rappelant la stratégie napoléonienne, pousser l'ennemi à combattre dans des conditions qui ne lui sont pas favorables. Quand on combat en ville, l'espace est confiné, les manœuvres sont difficiles et donc les forces s'égalisent. Vous avez beau être le mieux équipé pour prendre une ville, il faudra aligner au moins 5 fois plus d'hommes que l'ennemi. C'est donc considérable. En ville, les ennemis viennent de partout. La menace est à 360 degrés, le champ de bataille est souvent exigu, miné, piégé, l'ennemi agit, disparaît, frappe à nouveau, puis redisparaît, le terrain change en permanence, une rue bombardée la veille ne ressemble pas à ce qu'elle était, il est donc presque impossible de tenir des cartes actualisées, sans parler des liaisons radio souvent empêchées par les bâtiments, bref, Dans les villes, on a toujours l'impression d'être embourbé, de ne pas avancer. Les batailles urbaines sont les plus coûteuses en matériel, en énergie, en morale, mais surtout, elles sont coûteuses aussi en vie humaine. D'ailleurs, pour les soldats, les combats en ville sont la première cause de syndrome de stress post-traumatique. Et c'est naturel. Des gens cachés partout, des ennemis, on ne sait pas, on est sous le feu, mais sans savoir d'où il vient. Une façade explose, on se réfugie derrière une porte, nez à nez avec une famille, des gens morts de faim, restés dans les décombres depuis des semaines. Définitivement, un soldat n'est jamais préparé à ça. Parfois, les villes sont même complètement détruites, et c'est ce qu'il se passe actuellement à Mariupol. Dans le jargon militaire, on parlerait d'urbicide, la destruction d'une ville. Ça s'est déjà vu à Sarajevo, Vukovar, Alep ou Mossoul. L'urbicide, ça sert principalement à trois choses. Nettoyer la zone pour faire avancer l'infanterie, bombarder les civils pour frapper le moral de l'ennemi, et enfin, cela permet surtout d'effacer les symboles identitaires d'une ville, faire table rase de son histoire afin de chasser la population locale et la remplacer quand la ville sera conquise. Car les combats en ville impliquent inévitablement les populations civiles, lesquelles sont bombardées, prises pour cible, tuées, violées, blessées, puis évacuées s'il reste du monde, et encore quand on y arrive. Le combat urbain efface cette frontière entre le civil et le soldat, condition millénaire de tout art de la guerre. Et c'est pour ça que la guerre est souvent restée affaire de professionnels, une élite formée à l'art et la technique de combat pour préserver les villages, les villes, les nations, soit protéger tous les moyens de production. Chasseurs-cueilleurs d'abord, aristocrates ensuite, l'idée d'une armée populaire ne vient qu'avec la Révolution française, c'est donc une idée assez récente. Sur laquelle nos démocraties sont d'ailleurs revenues, préférant renouer avec la tradition d'une armée professionnelle formée au métier de la guerre. Soit, on n'aura jamais des armées aussi massives que la Russie, mais dans les armées occidentales, le matériel fonctionne et on sait s'en servir. De quoi rappeler enfin que l'armée russe a aussi une culture de la guerre très différente de nos armées occidentales. La Russie n'a pas connu les tranchées, ou du moins dans d'autres modalités, et les guerres impériales étaient plus influencées par la Cosaquerie que par l'aristocratie européenne. Le poilu, le chevalier, ce ne sont pas des modèles russes, et ça se ressent dans leur manière d'aborder la guerre. Par exemple, ils n'ont pas un corps de sous-officiers à proprement parler. Ça aussi, c'est une tradition occidentale. Pour que la chaîne de commandement soit la plus efficace possible, il faut des hommes qui assurent le lien entre les officiers et le soldat, un travail ingrat de petit chef, mais un chef qui se trouve sur le terrain, parmi les hommes. Le sous-officier, c'est celui qui maintient le moral des troupes et qui coordonne les hommes dans l'action. Ils sont donc la clé d'une bataille réussie. En Russie, un tel corps de sous-officiers n'existe pas ou pas vraiment, ce qui explique la propension de généraux russes à se faire tuer sur le champ de bataille. Depuis le début de l'invasion, ce ne sont pas moins de 7 généraux russes qui sont morts au combat, et c'est normal, dans une armée autoritaire, centralisée et sans corps de sous-officiers, il est nécessaire pour la haute hiérarchie de descendre sur le terrain pour donner les ordres aux hommes, afin qu'ils puissent au moins savoir ce qu'ils doivent faire. Ceci pourrait en partie expliquer la difficulté pour les soldats russes de se coordonner, de garder le moral ou tout simplement de savoir où frapper et dans quelle direction marcher. De même, l'armée russe est tellement autoritaire qu'elle empêche de fait l'initiative individuelle, ces petits élans d'héroïsme qui peuvent parfois renverser une bataille, ce qui a aussi fait la grandeur des armées occidentales au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Vous l'avez donc compris, la Russie n'a pas dérogé à sa tradition millénaire, elle a toujours une mauvaise armée. Sur ces belles paroles, il est temps pour moi de vous passer la phase B de cet épisode, une chanson folklorique et nationaliste d'Ukraine, interprétée par Andrei Krivniuk, et remixée puis partagée sur internet. Krivniuk était le chanteur d'un groupe de variété, il tournait aux États-Unis, mais quand la guerre fut déclarée, il enfila un treillis militaire et partit pour Kiev défendre son pays. Il est surtout connu pour avoir interprété cette chanson, Chervona Kalina, en plein milieu d'une place vide au centre de Kiev, avec une église orthodoxe qui tient encore debout et les Russes à quelques kilomètres. Il faut voir la vidéo originale, Krivniuk chante avec tellement d'entrain que peu importe votre camp, cette chanson ne peut vous laisser indifférent. Car oui, s'il faut le dire, je crois que l'Ukraine vaincra. Du moins, elle survivra, mais vous savez, ce n'est pas l'existence d'un pays ou d'un État qui m'importe le plus. Les régions passent, les institutions se fondent et s'effondrent, mais restent les gens. Les gens, leur folklore, leurs traditions, leurs petites histoires, ça, quand vous détruisez une ville ou massacrez une population, tout ça, ça disparaît. Et il est parfois important de le rappeler en chantant, par exemple. Andrei Krivniuk à Kiev, en mars 2022, Ojuluzi Červona Kalina.
Ojuluzi Červona Kalina похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.
Il me faut quitter désormais Mariupol, prendre un hélicoptère, m'exfiltrer de ce guépier pour enfin rentrer chez moi. Car c'est ça, la guerre au XXIe siècle. Une guerre hors limite, nous l'avons dit, où l'ennemi peut frapper partout dans le monde, à moindre coût, semer la terreur ou détruire des villes, plonger les populations dans la famine ou dans la crise énergétique, déverser des flots migratoires ou au contraire, les empêcher de passer. Et ça, c'est la rançon de notre économie mondialisée. La guerre au XXIe siècle est une guerre en phase terminale, comme le cancer. Elle est larvée, généralisée, c'est la plus douloureuse et elle tue tout le monde, sans distinction. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'il faut adopter le vieux principe de neutralité, et ce, devant tout conflit. C'est le seul moyen, en mon sens, de sortir de cette spirale belliciste qui est justement celle de la guerre hors limite. Sinon, ce sera la Libye, la Syrie ou l'Ukraine tous les 5 ans. Et ça, ce n'est pas une petite phrase ou un principe de la paix pour la paix. Non, la paix, c'est dans l'intérêt de tous. Pas en tant que nation ou communauté priant tel ou tel dieu, l'intérêt de tous en tant que force productive, somme toute, ce qui fait de nous une société. En tant qu'hommes et femmes vivants, créant, produisant, chacun à leur échelle, sur ce plan, la guerre n'est dans l'intérêt de personne. Sauf de forces qui s'organisent pour la faire, on appelle justement ça l'impérialisme, et l'impérialisme est toujours contraire à vos intérêts. Ça, ce n'est pas de l'idéologie, simplement une déduction logique avec un peu de bon sens. Car faut-il le rappeler, la guerre ne se fait pas sans armes, et ces armes ont dû, à un moment donné, être achetées, produites, échangées. C'est d'ailleurs tout un pan de l'économie mondiale. En 2020, alors que toute la population mondiale était confinée, c'est 1981 milliards de dollars qui furent dépensés dans le complexe militaro-industriel. 1980 milliards, c'est le PIB du Canada. Les Américains restent les plus grands champions de la production d'armes, avec 11 entreprises dans le top 20 mondial, Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics ou Northrop. Rien qu'à eux, ils produisent presque 40% de l'armement mondial. Mais nous, les Européens, nous ne sommes pas en reste, rassurez-vous, avec des entreprises non moins célèbres comme Airbus, Leonardo, Thales, Safran, Dassault, etc., on représente plus de 26% de la production mondiale d'armes, c'est-à-dire plus que la Russie. Comme quoi, les vieilles démocraties sont définitivement toujours dans la course. Sur la question de la guerre, Lénine écrivait à Zurich, le 1er janvier 1917, alors que la Première Guerre mondiale faisait rage, je cite, « Nous cesserions d'être des socialistes si nous nous contentions d'une méditation chrétienne, pour ainsi dire, sur la vertu des bonnes petites phrases générales, sans mettre à nu leur signification politique réelle. Ne voyons-nous pas, constamment, la diplomatie de toutes les puissances impérialistes faire parade de phrases générales et de déclarations démocratiques, magnanimes qui servent à camoufler le pillage, le supplice et l'étouffement des petits peuples. Pour réaliser une paix démocratique et équitable, il faut renverser les gouvernements bourgeois de tous les pays belligérants et profiter pour ce faire de ce que des millions d'ouvriers sont armés, ainsi que de l'exaspération générale causée dans la masse de la population par la cherté de la vie et les horreurs de la guerre impérialiste. » Fin de citation, et c'est pourquoi je me demande s'il ne serait pas possible un jour d'imaginer peut-être un ordre mondial différent. Une alliance, par exemple, de pays non alignés, démilitarisés et avec déjà une tradition de neutralité. Une alliance de pays pour œuvrer au démantèlement des armées, des arsenaux, bref, à la démilitarisation du monde, et ce, par du renseignement, un service d'action de type résistance, du sabotage ou, s'il le faut, de la guérilla. Bref, une guerre totale contre la guerre, contre ceux qui la font, ceux qui la veulent, contre les marchands d'armes et leurs actionnaires, afin que jamais plus les grandes nations ne se mettent sur la gueule. Bref, on ne vous empêchera pas de faire la guerre, ça c'est peine perdue, mais si vous pouviez la faire avec des bâtons et des cailloux, ça nous arrangerait tous. Parce que vous savez quoi, un coup de bâton dans la figure, ça fait déjà mal. Moi je vous laisse définitivement pour ce soir avec ces méditations sur la guerre. Ce qui est sûr, maman, c'est que je ne monterai jamais plus dans un hélicoptère. Bonne nuit à tous. Das Vidaniet, Tavalich.